Bonsoir, comment allez-vous? Et voilà le printemps qui se profile, plus que 10 jours. Qui dit printemps dit lumière qui revient, dit sève qui repart, dit jambes et bras qui ressortent, dit ventre qui frémit, dit cœur qui rebat, à moins qu'il ne s'arrête tout net, ou presque, sous le choc. Mais quel choc? C'est ce que nous allons voir ce soir avec vous, Sabrina Philippe. Bonsoir.
Bonsoir.
France Inter, état d'esprit. Noël Bréham.
Sabrina Philippe, vous êtes psychologue, et c'est votre métier, vous enseignez également. On vous a vu sur France 2 dans l'émission de Jean-Luc Delarue, où vous parliez déjà d'amour. Vous avez été également psychologue pour un site de rencontres, vous chroniquez dans divers magazines papier, et à propos de papier, vous venez d'écrire un livre édité chez Erol. Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Vous avez toujours été une spécialiste de l'amour en tant que psychologue ou c'est arrivé en cours de route?
Non, c'est arrivé en cours de route et à chaque fois qu'on me proposait soit des émissions, des papiers, des réflexions, c'était toujours autour du thème de l'amour, du couple. Donc ça s'est imposé à moi, on va dire plutôt.
Ça s'est fait comme ça.
Exactement.
Alors ce livre, ce dernier livre, Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part, c'est un roman.
Oui.
Vous racontez donc une histoire, une fiction, mais vous en profitez pour faire passer des messages, on peut dire ça comme ça?
On peut dire ça comme ça. Le choix du roman était vraiment quelque chose de très important pour moi, puisque vous l'avez dit, j'ai des étudiants, hein, je suis professeure. Et c'est vrai que j'ai toujours remarqué en fait que mes étudiants retenaient l'anecdote et non pas finalement la théorie. Donc ça ne m'intéressait pas d'écrire un livre de psychologie théorique sur le couple, sur l'amour.
Donc des histoires pour un petit peu fixer leur attention, quoi.
Pour fixer leur attention et pour créer l'émotion, parce qu'on ne retient finalement que ce qui nous émeut. Il y a beaucoup de livres de développement personnel qui sont très intéressants, mais c'est vrai que quand vous le refermez, vous n'avez pas forcément été ému par ce que vous avez lu.
D'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique que quand on referme un livre de développement personnel, on parle des bons, hein, ne parlons pas des autres, on se dit mais c'est formidable, ma vie va changer, j'ai découvert quelque chose, et puis on ne sait pas pourquoi ça s'évapore.
Et oui, parce qu'il n'y a pas l'émotion. Et c'est l'émotion qui fixe, toujours. D'ailleurs, moi-même, je me souviens d'anecdotes de mes professeurs plus sûrement que de leurs cours, quand j'étais étudiante en psychologie.
C'est intéressant, hein, ça pourrait vraiment être... Bon, votre sujet, c'est l'amour, mais ça pourrait être la pédagogie.
Oui.
Finalement, parce qu'on pourrait remanier beaucoup de choses comme ça. D'ailleurs, pas mal de professeurs le savent, pas tous, mais pas mal de professeurs le savent, qui arrivent à saupoudrer leurs cours, justement, d'émotions, de petites histoires.
C'est ce que j'essaye de faire, en effet.
Donc, tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. C'est ce qu'on appelle les âmes sœurs. Mmh. C'est l'histoire d'une âme sœur qui a retrouvé une autre âme sœur.
Oui.
Mais qu'est-ce que c'est, Sabrina Philippe? On va en parler tout au long de cette heure et puis d'autres choses aussi. Qu'est-ce que c'est, finalement, une âme sœur?
Ah, ça c'est toute la question.
Oui, voilà. Alors bon, je vous demande un petit début, hein, parce qu'on va le développer.
Alors, ça demande déjà d'être sur un versant un petit peu plus spirituel que le développement personnel. On n'est plus sur du développement spirituel, finalement, puisqu'on va parler d'âme. Et l'âme, c'est quelque chose qui est...
Dans âme sœur, il y a âme.
Il y a âme avant tout. Et l'âme sœur, telle qu'on l'entend la plupart du temps, telle que les sites de rencontres pour lesquels j'ai travaillé d'ailleurs l'utilisent, c'est finalement cette rencontre parfaite que l'on ferait d'un être qui vous correspondrait en tout point et puis vous seriez heureux jusqu'à la fin de vos jours. C'est un peu l'image qu'on en a. Et c'est comme ça d'ailleurs que communiquent les sites ou même des livres hein, sur l'âme sœur. Voilà, trouvez votre âme sœur. Et en réalité, moi, ce que j'ai pu découvrir et vivre aussi, puisque finalement ça part d'une expérience personnelle, c'est important de le dire, c'est que l'âme sœur, c'est pas du tout ça. Ce sont deux âmes pour moi qui en effet se rencontrent, se re-rencontrent, se percutent, mais pas toujours dans la joie en tout cas, et même rarement.
C'est intéressant parce que finalement, quand on dit pudiquement âme sœur, vous venez de l'évoquer, on pense au corps, on se dit ça va être une aventure amoureuse au bon sens du terme, on va bien s'entendre physiquement.
C'est ça.
Et puis après, on va peut-être bien s'entendre culturellement, on va peut-être bien s'entendre familialement, on va peut-être fonder une famille. Mais on pense absolument pas dans âme sœur, on pense jamais à l'âme.
Ben oui, justement. Ouais.
On pense à l'aventure amoureuse d'abord.
L'aventure amoureuse très terrestre finalement, ouais. Alors qu'il s'agit d'autre chose à mon sens. Hein. Mais à mon sens aussi parce que j'ai cherché aussi dans les écrits bibliques, j'ai cherché dans la philosophie aussi cette notion d'âme sœur qui existe et qui existait déjà il y a bien longtemps.
Alors, il vous est arrivé, Sabrina Philippe, c'est votre métier d'être psychologue, c'est votre métier de parler d'amour, c'est votre métier de détricoter, de démêler, d'aider ceux qui s'en patouillent un petit peu dans les histoires d'amour. Donc j'imagine que vous devez commencer à en connaître un rayon. Mais il vous est arrivé d'une façon tout à fait inattendue une aventure que vous développez dans ce livre. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas que de l'amour terrestre. Donc ça sous-entend que deux âmes se retrouvent qui se sont peut-être déjà connues dans une autre vie. C'est quand même une information capitale.
Oui, c'est vrai. Disons que moi-même, j'ai fait une rencontre qui m'a bouleversée, plus que bouleversée d'ailleurs, qui a été un chaos total. Comme c'est souvent le cas, puisqu'ensuite j'ai rencontré des personnes qui avaient pu vivre des expériences similaires. Donc je ne suis pas du tout la seule. Et c'est ce que je vois aussi tous les jours, puisqu'il y a des personnes qui m'écrivent après avoir lu ce livre un peu tous les jours pour me dire « mais voilà, j'ai vécu la même chose, je comprends » ou « je mets du sens sur ce qui m'est arrivé ». Donc j'ai vécu cette rencontre qui a complètement bouleversé ma vie, qui a été un chaos total que je ne comprenais pas et pour laquelle je n'avais pas de réponse dans la psychologie même. C'est-à-dire que j'ai cherché bien sûr dans mon cœur de métier et je n'avais pas de réponse en réalité. Donc j'ai commencé à chercher ailleurs, j'ai cherché dans la littérature, j'ai cherché justement dans les religions, quelle qu'elle soit, le bouddhisme, la religion catholique, la Bible, la religion juive aussi. Et puis, bon, j'ai continué comme ça à chercher jusqu'à des écrits plus spirituels pour commencer à avoir des bribes de réponses, vraiment des bribes de réponses pour essayer de comprendre finalement pourquoi je vivais cette aventure qui était en même temps un chaos, en même temps une peine, mais une joie infinie.
Continuons avec vous, Sabrina Philippe, à mener cette enquête sur le phénomène des âmes sœurs, qui n'est pas tout à fait synonyme de coup de foudre, même s'il y a effectivement du coup et de la foudre dans cette aventure. Je rappelle le titre de votre livre, « Tu verras, les âmes sœurs se retrouvent toujours quelque part ». Donc il s'agit bien de retrouvailles.
France Inter, État d'esprit, Noël Bréham.
bien voilà, c'est vrai que ça met de bonne humeur, Sabrina oui. Philippe. C'était la bande originale du film La La Land de Damien Chazelle qui a remporté 6 Oscars, dont celui de la meilleure musique de film. Nous parlons, Sabrina Philippe, avec vous ce soir, des âmes sœurs. Et vous en donnez une définition fondée sur votre expérience personnelle qui est tout à fait originale. Puisque vous en parlez dans votre livre, Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part, livre édité chez Erol, j'aimerais vous faire entendre, Sabrina Philippe, la voix de quelqu'un que vous évoquez, Jean Marais. Il est au micro de Sylvain Augier et il raconte comment, tout jeune homme, Jean Marais, il a entendu parler pour la première fois de sa vie de Jean Cocteau.
Est-ce que vous avez le sentiment que c'était la chance de votre vie, cette rencontre, qui était finalement un hasard ?
Oui, c'est un hasard, mais non, mais je l'ai voulu parce que c'est extraordinaire. Vous savez comment, la première fois, j'étais très inculte. Un jour, j'ai été invité par un ouvrier de chez Renault, chez lui, avec des camarades, pour prendre un verre. Et sur les murs, il y avait des dessins qui me ressemblaient. Et j'ai dit qui a fait ces dessins, et on m'a dit c'est Jean Cocteau. C'était des reproductions de dessins. J'ai posé la question, qui est Jean Cocteau? Je ne savais pas. Il m'a expliqué qui était Cocteau, cet ouvrier d'usine de Renault. Et je me suis donc intéressé, j'ai dit si un jour je suis riche, je m'achèterai un dessin de Cocteau.
Ah oui.
Et j'ai acheté un livre. Le premier livre que j'ai lu de Cocteau, c'était « Les enfants terribles ». Et naturellement, j'ai été pris par ce livre. Alors j'ai cherché à connaître Cocteau.
Et Sabrina Philippe, voici ce que Cocteau dit de son côté à propos de leur rencontre. Nous sommes en 1937, Jean Cocteau symbolisait l'avant-garde littéraire et théâtrale, il avait 48 ans. Ça n'allait pas fort pour lui, il tournait à 30 pipes d'opium par jour, il était vraiment au bord du gouffre, mais une rencontre va changer sa vie.
Il est tout de suite subjugué par un jeune garçon qui ressemble trait pour trait au portrait des faibles qu'il dessine inlassablement depuis des années. Il dira plus tard, je ne l'ai pas connu, je l'ai reconnu.
Je l'ai reconnu. Alors qu'est-ce qu'il raconte là, Sabrina Philippe, tous les deux ? De quoi parle-t-il ?
Alors pour moi, et à mon sens justement, il parle de cette reconnaissance d'âme. Alors bien sûr, il y a une reconnaissance là, physique, hein, puisqu'il se dessine, voilà, il le dessine avant même de le connaître. Mais c'est une reconnaissance qui vient du fond des âges, ça. Et que certaines personnes font. Enfin, là, on a un très bel exemple de Cocteau et Marais, qui sont deux, à mon sens, deux belles âmes sœurs, ouais. Qui se sont trouvées sur cette terre et qui se sont trouvées pour créer. Parce que, bien souvent, quand les âmes se rencontrent à nouveau, comme ça, elles ont un but. Cette rencontre, elle n'est pas stérile. Elle n'est pas pour notre bien-être amoureux terrestre. Elle est pour créer et générer quelque chose autour. Voilà, de cette étincelle, et pour générer une lumière autour de cette étincelle, et cela, c'est une lumière créatrice qu'ils ont générée tous les deux.
C'est pour ça que vous dites probablement, Sabrina Philippe, que quand deux âmes sœurs se rencontrent, c'est un couple, mais pas forcément un couple d'amoureux. Ça peut être des collègues, des parents-enfants, toutes sortes de personnes qui se mettent ensemble pour faire avancer le monde, en fait.
Exactement, exactement. Ouais. Alors c'est vrai que souvent l'amour amoureux est très puissant. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui nous saisit d'une façon tellement violente, quelque part, qu'on ne peut pas y échapper. Ouais. Mais j'ai rencontré des personnes qui étaient même frères et sœurs, ou deux sœurs, voilà, qui avaient cette énergie créatrice ensemble.
Donc, puisque vous dites comme Cocteau, on se reconnaît, ça sous-entend qu'on a déjà fait un tour sur cette terre ou ailleurs.
Ça sous-entend même qu'on aurait fait plusieurs tours. Voilà, donc ce qui ouvre aussi la porte à une autre vision, finalement, de notre vie, maintenant, ici et maintenant, sur cette terre. C'est-à-dire qu'on reviendrait. Bon, ça, c'est pas une idée que j'avance personnellement. C'est une idée
qui n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'humains sur cette terre qui
le pensent. Oui. Et il y a des courants religieux qui le prônent.
Et alors, je vais peut-être vous choquer, est-ce que ce sont forcément des humains ? Parce que j'ai vu un film tout à fait extraordinaire qui s'appelle Harry et Snowman. Harry est un homme et Snowman est un cheval. Et ça se passe après la dernière guerre aux États-Unis. Harry est instructeur d'équitation, il n'est pas très argenté, il a une famille nombreuse, il vient de Hollande, c'est un immigré de la première génération. Et il va dans une vente de chevaux qui sont des chevaux en fin de course, c'est le cas de le dire. Et s'ils n'ont pas été vendus à cette vente-là, ils partent à la boucherie après. Donc il arrive en retard à cette vente, donc il y a une partie des chevaux qui ont été vendus puis qui partent avec leur nouveau propriétaire, et puis il y avait un camion avec tous ceux qui n'avaient pas été vendus et qui partaient à la boucherie. Et à ce moment-là, Harry croise le regard d'un cheval. C'est Snowman, qui était un cheval de trait, qui était un cheval vieux et qui n'était pas un beau cheval, puisque c'était vraiment une solde, si vous voulez. Et j'essaye de vous la faire courte, avec ce cheval Snowman, il a remporté des concours et des championnats, c'est une histoire vraie. Hein. Ça a été le plus grand sauteur des États-Unis de cette époque. Alors, pourquoi il n'a pas vu ce cheval ni marcher? Il a juste vu ses yeux, parce qu'il y avait plein de chevaux dans ce camion. Leurs regards se sont croisés. Il a dit au chauffeur du camion, je voudrais ce cheval, je voudrais l'acheter, faites-le descendre. Et l'autre a dit, ah non, mais la vente est terminée, moi je n'ai pas le temps de l'exposer. Non, mais je ne vous demande pas de l'exposer, je vous demande de le faire descendre. Voilà, $80, je prends le cheval. Et ils ont fait quelque chose d'extraordinaire tous les deux. Ça se peut, ça?
Je crois que oui, ça se peut. Il y a des théories qui disent qu'on peut se réincarner en animal et qu'on se repose dans les vies d'animaux.
Oh, bon, ça, il y a déjà des animaux qui n'ont pas l'air de se reposer.
Il y a des animaux qui ne se reposent pas, mais peut-être qu'on repose notre esprit aussi, parce qu'on ne pense pas de la même façon. Être un animal, c'est être dans l'ici et maintenant. Un animal, il a, bien sûr, il mémorise, mais il mémorise peu. Demain n'existe pas. Moi qui suis très branchée avec les animaux, hier n'existe pas, demain non plus, donc c'est juste maintenant, en fait.
Vous êtes branchée avec les animaux, mais Sabrina Philippe, vous êtes psychologue pour humains.
Oui, tout à fait.
Donc vous faites les deux.
Oui, mais c'est vrai que, par exemple, j'ai un chien qui m'accompagne tout le temps, même en consultation.
Ah bon? Il apaise les patients?
Oui, oui, ça a été mon premier travail, ça, j'ai fait une thèse là-dessus.
Ah oui, ouais. Je ne savais pas.
Avec l'animal. Et justement, le rapport avec l'animal peut être très particulier.
Donc vous comprenez mon histoire de Harry
Snowman. Je la comprends vraiment à 100%.
Ouais. Donc ça peut être, effectivement, l'animal est dans l'ici et maintenant, on s'en aperçoit. Il ne se tracasse pas pour le futur et il ne rumine pas le passé.
Exactement, c'est une façon de se reposer, parce que nous, c'est notre travers en tant qu'humain. Ouais. De toujours être soit dans le passé, soit dans la projection du futur. Donc finalement, peu dans le moment présent.
Oui, c'est juste. Même si l'animal peut avoir une, et il en a d'ailleurs une mémoire, hein, bon, le coup de pied de la mule, on connaît, et il en a besoin pour repérer là où est le danger. Mais une fois qu'il a repéré ce dont il avait besoin, il n'est pas dans la rumination, comme nous savons hélas trop bien le faire.
Exactement.
Il n'est pas non plus dans l'anticipation.
Exactement.
Donc, puisque nous parlons avec vous des âmes sœurs, Sabrina, Philippe, ça peut être deux humains, mais ça peut être aussi finalement, même si ça paraît extravagant, un humain et un animal, puisque si on fait plusieurs tours, on peut faire plusieurs tours sous plusieurs formes.
Peut-être.
On ne sait pas.
Je n'ai pas la prétention, moi, de dénoncer une théorie. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai écrit un roman et que je n'ai pas écrit un livre, un document. Parce que je n'ai pas la prétention, et qui pourrait l'avoir, de dire ce qui se passe de l'autre côté quand on s'en va.
Ouais.
On peut juste imaginer, on peut juste essayer d'avoir des bribes comme ça, de vie, de nos vies, de témoignages que j'ai pu recevoir, et d'essayer d'en faire quelque chose. Voilà.
En fait, vous menez, aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel, une observation.
Exactement. Je suis mon premier cobaye.
Sabrina Philippe, je rappelle le titre de votre livre. Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Alors, c'est un roman. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, on va bien sûr pas raconter la fin. Hein, mais c'est l'histoire d'une vieille dame qui raconte à une jeune femme ce que c'est que la rencontre de l'âme sœur. Et elle lui raconte son aventure. Alors bon, je vais m'arrêter là dans le récit, parce que sinon je vais en dire trop. Ces rencontres se passent juste dans un café. C'est un récit et on s'aperçoit que finalement, la rencontre de l'âme sœur, de ce complément, n'est pas, vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, Sabrina Philippe, forcément confortable. On pense toujours que c'est un coup de foudre qui va déboucher sur une histoire idyllique. Non.
Non, c'est rarement le cas. D'ailleurs, même dans l'histoire, vous savez, de Cocteau et Marais, en réalité, au-delà de la création, ils ont beaucoup souffert tous les deux. Bon, nous, on en garde aujourd'hui leur création, mais leur histoire intime est une histoire de souffrance.
D'accord.
Donc, c'est pas si simple, en fait. C'est pas si simple, et ça l'est rarement.
C'est pas une bleuette.
Exactement. Ouais. C'est pas une bleuette, et c'est ce que lui dit d'ailleurs cette vieille femme. Vous pensez que l'âme sœur, c'est ça, mais c'est pas ça du tout. Et bien souvent, c'est quoi finalement? Le fait de percuter une autre âme comme ça, ça va vous amener à faire comme un chemin initiatique que vous auriez pu faire en des années et des années, en quelques secondes.
Donc, coup.
Voilà, c'est comme si vous preniez votre tête et vous la tapez entre deux cymbales, ouais. si vous voulez. Donc après, vous êtes complètement déboussolé, vous êtes assez perdu, souvent très triste. Il va falloir en faire quelque chose, le créer, le dépasser.
Tout à l'heure, quand on écoutait La La Land, vous m'avez dit Jacques Demy a été influencé par Cocteau.
Oui. Ouais. Oui, bah c'est vraiment tout mon univers, ça, pour le ouais. coup. C'est vraiment un univers que j'adore. Et justement, chez Jacques Demy, il évoquait aussi ouais. l'âme sœur. Dans la chanson de Delphine, c'est une chanson sur l'âme sœur.
Alors, à propos de chansons et d'âme sœur et d'amour, voici un extrait du premier album de Laurent Voulzy. Et le titre de cet album, c'est Cœur Grenadine. Voici Karine Redinger.
Jolie, jeune mariée, lune de miel à peine commencée. Méfiez-vous des voyageurs, voyez Karine Redinger. Karine Redinger, j'ai reçu votre lettre à fleurs. Vous devez être endormie, rêveuse de choses qui sont loin de moi peut-être. Alors c'est pas bien. Karine Redinger, y a un morceau caché de mon cœur qui est resté quelque part sur un bateau vapeur. Vous étiez mariés depuis 2 heures. Vous laissiez le vent montrer vos jambes en douceur. Et vous m'aviez remarqué parmi les voyageurs. Karine Redinger, arrêtez de m'envoyer des fleurs. J'ai une femme à Paris et vous un gentil mari. Cessons la scène musicale comédie. Votre lune de miel au fil de l'eau, vous veniez le matin très tôt et vive l'amour en bateau. Endormi, petit mari, sur le Mississippi, vous étiez quand même un peu gonflé de m'apporter mon café. Oh, Karine Redinger, veuillez oublier ce steamer. Cette petite plaisanterie m'a fait pleurer dans mon lit, heureusement pas trop longtemps. Ah, ah. Karine Redinger, ne venez pas voir le sacré cœur. Laissez Paris tranquille, vous êtes dangereuse dans cette ville. Un Français, c'est souvent sentimental. Vous laissiez le vent montrer vos jambes en douceur. Et vous m'aviez remarqué parmi les voyageurs. Karine Redinger, arrêtez de m'envoyer des fleurs. 10 jours en bateau fou, souvenir, rendez-vous, c'est fini là. From me to you, from me to you. Karine Redinger, y'a déjà quelqu'un dans mon cœur. Cette petite plaisanterie m'a fait pleurer dans mon lit. Cessons la scène musicale, comédie. Cette musicale, cessons la scène musicale, comédie. Cette musicale, cessons la scène musicale, comédie.
Noël Bréham, état d'esprit sur France Inter.
Avec vous ce soir, Sabrina Philippe, nous avons essayé de définir l'âme sœur, qui n'est pas tout à fait le coup de foudre, même pas du tout en fait. D'après votre roman, tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part chez Erol. Alors, puisque nous avons essayé de cerner l'âme sœur, maintenant, quels sont les signes physiques? Vous racontez que vous, ça vous est arrivé, vous pensiez que vous aviez une crise cardiaque, oui. que votre cœur s'arrêtait, paf.
Oui, oui. Des signes physiques, aussi des perceptions extraordinaires, de télépathie ou de vision, en fait, que je n'avais jamais eu par le passé, que je ne m'expliquais pas.
Mais par exemple, vous saviez ce que faisait l'autre?
Oui, savoir ce que fait l'autre, avoir des visions de ce qu'il fait, de pouvoir les vérifier, savoir qu'il est dans la rue d'à côté sans y mettre les pieds, pouvoir le localiser, des choses comme ça.
C'est une espèce de magie, quand même.
Oui, mais il y a un aspect magique dans nos vies qu'on a tendance à oublier. Vous savez, on a été sur des époques où il y avait beaucoup plus de magie dans nos vies. Et je pense que enfin, la magie, c'est aussi la spiritualité. Et on en manque beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un retour, je pense. Parce qu'on ne peut pas vivre sans cette spiritualité. Nos vies sont magiques, quelque part. Le fait d'être ici, ici même dans ce studio en train de se parler, c'est magique. Donc, parce que la rencontre est magique, quelle que soit la rencontre, quel que soit le moment. Et ça, on a trop tendance à l'oublier.
Le Big Bang aussi, on pourrait, parce que maintenant les scientifiques nous le disent, que si tous ces réglages très 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 fins avaient été différents d'un quart de millième de poil, nous ne serions pas là.
Exactement, comme toute rencontre. À un moment, vous allez, vous allez croiser un regard dans la rue, vous allez, il va s'en suivre quelque chose.
Donc, du coup, vous parlez des signes que nous avons un petit peu perdu l'habitude d'écouter parce que nous raisonnons et c'est très bien de raisonner. D'ailleurs, si on raisonne pas, on peut pas vivre non plus. Il n'est pas question d'éliminer le raisonnement, mais il est question de ne pas avoir que le raisonnement comme boussole dans notre vie.
Alors,
guide.
Alors, c'est ça. En fait, on raisonne de façon mentale, mais il faudrait apprendre à raisonner et pas, raisonner avec le cœur.
Et écouter les signes.
Et écouter les signes. On a beaucoup de signes dans nos vies, en réalité, qui nous indiquent les chemins à prendre. Et on a aussi cette petite voix dans notre tête ou dans notre cœur qui nous dit non, là, c'est pas bon, là, c'est bien. Et on veut pas écouter. Et on est très perturbé d'ailleurs par tous ces instruments qu'on peut avoir, nos smartphones ou autres, qui nous perturbent en permanence dans finalement ce qu'on est censé voir, entendre et qui nous apparaît et qui sont des guides pour nous.
Vous êtes en train de me dire, Sabrina Philippe, que le GPS n'est en train de nous faire perdre le sens de l'orientation.
Exactement, c'est joliment dit.
Alors, dans votre roman, puisqu'il s'agit d'un roman fondé sur une expérience personnelle, mais quand même d'un roman, c'est l'histoire d'une femme et d'un homme, nous recevons des signes. Dites-vous, Sabrina Philippe, vous l'écrivez également dans votre roman, les héros reçoivent des signes, entre autres, à propos de ce livre de Goethe, Les souffrances du jeune Werther. Écoutons Jean de Sailly nous en lire un extrait de ses souffrances. Et c'est justement le moment de la rencontre qui, elle aussi, contient un signe.
16 juin. J'ai fait une connaissance qui touche de plus près à mon cœur. Je n'en sais rien. Un ange. Fille, chacun en dit autant de la sienne, n'est-ce pas? Et pourtant, je ne suis pas en état de t'expliquer combien elle est parfaite. Pourquoi elle est parfaite? Il suffit, elle a asservi tout mon être. Tant d'ingénuité avec tant d'esprit. Tant de bonté avec tant de force de caractère. Et le repos de l'âme au milieu de la vie la plus active. Écoute donc, je vais me forcer à entrer dans les détails. J'avais mis pied à terre. Une servante qui parut à la porte nous pria d'attendre un instant Mademoiselle Charlotte qui allait descendre. « Avez-vous achevé, dit la cousine, le livre que je vous ai envoyé ?» Non, répondit Charlotte, il ne me plaît pas. Vous pouvez le reprendre. Le précédent ne valait pas mieux. Je fus curieux de savoir quels étaient ces livres. Et j'appris que c'étaient les œuvres de X. Je trouvais un grand sens dans tout ce qu'elle disait. Je découvrais à chaque mot de nouveaux charmes, de nouveaux rayons d'esprit, dans ses traits que semblait peu à peu épanouir la joie de sentir que je la comprenais.
Alors vous parlez de cette histoire hein, de Goethe, Sabrina Philippe, dans votre livre. Alors c'est drôle parce que, en fait, vous citez le livre, objet, comme étant un signe.
Oui,
oui. Racontez-moi un peu.
Ben, là, si vous voulez, on le voit bien dans ce passage, d'ailleurs il est très bien choisi. Comme si le ciel s'ouvre, vous voyez, il y a cette notion-là, c'est-à-dire dans la rencontre, une rencontre extraordinaire, le ciel s'ouvre d'un seul coup, vous voyez l'autre sous un jour incroyable et vous comprenez ce que vous lisez, vous voyez le soleil de façon différente, vous entendez la musique de façon différente. Et c'est ça qui est magnifique en réalité dans ces rencontres, alors qui peuvent s'apparenter, on l'a dit, un peu au coup de foudre, mais qui vont bien au-delà parce qu'elles vous transforment. Voilà.
Ce n'est pas le début d'une histoire, c'est le début d'un univers.
C'est le début d'un univers, c'est le début d'une métamorphose.
Que vous avez vécue.
Oui.
Et alors, vous venez de le dire à l'instant, il y a des signes. Quels sont ces signes? Alors, dans votre livre, il y a une histoire de livre, justement le livre-objet de Goethe, qui se retrouve par hasard. Un peu des synchronicités.
Ce sont des synchronicités, mais des synchronicités, on en a dans notre vie, on en a. Et dans ces histoires-là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de synchronicités. Et j'ai beaucoup entendu ça, parce qu'encore une fois, j'ai après pu entendre le témoignage de personnes qui avaient vécu des histoires similaires. Et ce sont des histoires, il y a énormément de synchronicités.
Par exemple, un exemple de synchronicité.
Tout simplement, le fait de, et c'est écrit aussi dans le livre, le fait de penser fort à quelqu'un, il vous apparaît, il est devant vous, à 10 mètres, alors que vous êtes dans un endroit insolite.
Ça nous est tous arrivé.
Quelqu'un
qu'on voit jamais,
Quelqu'un qu'on voit jamais, bien évidemment, qui vous apparaît dans un lieu où vous êtes loin de chez vous. Voilà, des signes comme ça. Mais parfois, ce sont des signes plus subtils. Vous savez, il y a pas longtemps de cela, dans un moment un petit peu particulier, et en plein cœur de l'hiver, il y a un papillon qui a volé autour de moi, un papillon multicolore, ce qui est quand même assez rare.
En plein hiver.
En plein hiver. Et je me suis arrêtée pour regarder ce signe. Parfois, on ne peut pas les comprendre tout de suite, ces signes-là. Mais en tout cas, au moins de les garder dans son cœur pour pouvoir les appréhender plus tard.
Bah alors, par exemple, vous voyez un papillon en plein hiver, vous ne comprenez pas ce que c'est. Mais est-ce que ça peut être quelque chose d'aussi simple que Madame Papillon me demande de m'associer avec elle pour créer une entreprise? Et vous voyez un papillon. Ça peut être aussi simple que ça ou c'est quand même plus subtil?
Moi, je pense que c'est un petit peu plus subtil. Et notamment, moi, le papillon, il est particulier parce que le papillon, il est beaucoup associé à l'âme, en fait. Papillon, c'est un symbole de l'âme.
Parce que c'est léger.
Parce que c'est léger, parce que, voilà, parce qu'il y a aussi cette histoire de cocon et puis ensuite de transformation. Donc voilà, je l'ai associé à l'âme et à une âme qui virevoltait autour de moi.
D'accord.
Et je trouvais ça assez joli.
Qu'est-ce qui associe le papillon à l'âme? C'est dans plusieurs civilisations, religions.
C'est dans plusieurs civilisations. Et en fait, vous avez une psychiatre américaine qui est extraordinaire, qui est décédée maintenant, qui s'appelait Elisabeth Kübler-Ross, qui a travaillé sur le deuil, la fin de vie, mais qui a aussi visité des camps de concentration. Et en fait, les prisonniers dessinaient des papillons sur les murs pour symboliser leur libération. Et en fait, le papillon, c'était leur âme qui se libérait du corps pour pouvoir être ailleurs, pour quitter l'horreur.
Donc le papillon s'évade, il est léger, il est comme une âme, et il n'est pas né papillon, il est né chenille.
Exactement.
Donc
c'est la transformation. Finalement, nous sommes des petites chenilles sur cette terre, et nous vivons toute notre vie pour devenir un papillon.
See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. And I, we look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Voilà, c'était un tube des années 80, Bill Withers et Grover Washington.
État d'esprit sur France Inter.
Sabrina Philippe, vous êtes psychologue, vous êtes également romancière, professeure, et vous venez d'écrire, édité chez Erol, tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Vous parlez d'une histoire d'âme sœur dans ce livre, qui n'est pas un coup de foudre, qui n'est pas une histoire d'amour, et vous dites même que quand deux âmes sœurs se retrouvent, c'est souvent douloureux.
Oui.
Pourquoi ? J'imagine pourquoi, parce que vous l'avez remarqué, parce que vous l'avez vécu, vous avez écouté des témoignages, mais puisque elles ont un but, c'est quoi le but de cette douleur ?
Ben, le but de cette douleur, c'est de se transformer. Parce que c'est ce que j'explique dans ce livre, justement. Seule la souffrance nous transforme, et la joie nous fige. La joie nous fige parce que vous aurez remarqué que lorsque vous avez un moment extrêmement heureux, vous avez envie que rien ne bouge, que rien ne change, que tout soit toujours pareil. Et seule la souffrance nous pousse à nous transformer parce que nous voulons la dépasser. Et pour la dépasser, nous sommes obligés de nous transformer. Et donc, c'est le but. Le but, c'est la transformation. Et c'est la transformation de notre âme sur cette terre.
Vous êtes psychologue. Vous vous en êtes aperçu en écoutant les histoires de vos patients, en vivant vous-même. Parce que quand on dit à quelqu'un qui souffre, ta souffrance va t'aider à évoluer, en général, il le prend mal.
Oui. Il faut le dire avec un petit peu plus de pincettes que ça, évidemment. Oui. Mais c'est une réalité. Qu'est-ce que l'on apprend lorsque on vit un moment difficile? Voilà. Lorsque vous êtes dans un moment difficile, demandez-vous plutôt que de vous lamenter. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire, bon, pauvre de moi, qu'est-ce qui m'arrive?
Encore, vous êtes convenable, je jure.
Exactement. Non, mais là, je suis convenable parce que je suis derrière un micro. Mais évidemment, souvent, on se place en victime. Si on sort de cette position de victime et qu'on se dit, qu'est-ce que cette expérience va m'apprendre? Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre? Comment je vais grandir de cette expérience-là? Comment elle va me transformer, cette expérience? Et je vous assure que je l'applique beaucoup dans ma vie personnelle, parce que c'est pas quelque chose que je dis comme ça dans un livre, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Donc, comment cette expérience va me changer, va me transformer, va m'ouvrir, voilà, va me faire peut-être rencontrer d'autres personnes, voir autre chose, découvrir. À partir du moment où vous avez cette vision-là de l'événement qui se passe, alors vous allez commencer à le voir complètement différemment. Et vous ne le verrez plus comme une victime qui subit, mais comme quelqu'un qui est aussi acteur de sa transformation par des événements aussi douloureux.
Ce qui induit une acceptation de l'événement fâcheux.
Exactement.
Mais est-ce qu'à partir du moment où on accepte, j'essaye de me faire l'avocat du diable, on se dit, si on accepte, du coup on ne se bat plus. Si j'accepte la maladie, si j'accepte le totalitarisme, je ne me bats plus.
Alors,
vous voyez, on peut prendre
l'exemple de la maladie. Beaucoup de personnes sont venues me voir, parfois parce qu'elles venaient de découvrir qu'elles avaient une maladie. Et la maladie, en réalité, il y a plusieurs façons de la voir. C'est le corps qui s'exprime et qui dit il y a des choses qui ne vont pas. Comment je vais transformer ma vie pour faire en sorte que ces choses qui ne vont pas disparaissent ou se transforment justement elles aussi, pour que ma vie soit plus agréable? Et c'est très étonnant d'entendre quelqu'un qui, après, sort de sa maladie, ou en tout cas parfois apprend à l'apprivoiser, parce que c'est une maladie chronique, dire heureusement qu'il y a eu cette maladie.
C'est vrai que c'est un choc.
Oui. Mais on entend ça aussi. Ouais. On entend heureusement qu'il y a eu cette maladie pour transformer ma vie. Et je vous assure que ça s'entend plus souvent qu'on ne le pense.
Ah ouais. Je rappelle que vous êtes
moment,
psychologue.
Voilà, à partir du moment où il y a ce travail, finalement, de compréhension, d'acceptation, ça ne veut pas dire qu'on ne se soigne pas.
Bien sûr.
Bien sûr, vous voyez. Donc ça répond à votre question. On se soigne, mais on essaye de mettre du sens, on essaye de comprendre qu'est-ce que cette expérience va m'apporter.
Donc, ni victime, ni rebelle, ça m'emmène sur un chemin. En fait, vous écrivez, Sabrina Philippe, quand on vit dans le juste, c'est autoroute. Et quand on se trompe dans un domaine ou un autre, le chemin est escarpé, boueux, plein d'ornières.
Oui, et puis souvent d'ailleurs, la vie se charge de nous répéter les mêmes leçons quand on ne l'a pas comprise. Vous noterez, vous rencontrez, je ne sais pas, une personne avec qui ça se passe mal, et puis vous retombez sur une autre personne qui a les mêmes problématiques, et vous allez revivre à nouveau la même chose, et puis la vie va vous resservir la même chose, jusqu'à ce que vous compreniez que vous n'êtes pas dans le juste, qu'il faut comprendre, il faut changer. Et en effet, ce que j'écris dans ce livre, c'est que si vous dansez
Avec sur, l'univers.
Voilà, avec l'univers. Ouais. Eh bien, l'univers se chargera aussi de rendre votre chemin plus facile.
Sabrina Philippe, vous écrivez si vous dansez avec l'univers et pas si vous vous battez.
Exactement. Il ne s'agit pas de se battre en réalité. Et je pense qu'on se bat beaucoup, vous voyez. On se bat contre nous-mêmes déjà beaucoup. On est rarement gentil avec soi. On se bat contre les autres, contre... pas ouvertement, bien sûr, hein, mais une espèce de bataille pour réussir, pour s'affirmer, pour essayer, pour se dépasser soi-même. L'idée, c'est de faire de son mieux, ça c'est très important, mais de laisser ouvert et d'accepter aussi ce qui vient, sans vouloir forcément tout, enfin, transformer par notre seule volonté. Comprenez ?
Mais oui, mais si... si on se bat pas, j'avais cette conversation avec une petite nièce qui est drôle et charmante et qui disait... Mais moi, si je me bats pas, je mange des cornflakes devant la télévision toute la journée.
Oui. Peut-être qu'on n'a pas le même sens derrière le ouais. mot se battre, si vous voulez. C'est ne pas aller contre un vent contraire en permanence, vous voyez ? C'est se laisser porter aussi par ce vent. Et encore une fois, l'idée c'est de faire de son mieux, mais de faire de son mieux dans le juste.
Ah oui, mais comment sait-on ? En fait, c'est souvent comme disait Paracelse, tout est dans la dose. On peut pas être en lutte en permanence, mais on peut pas non plus se laisser aller totalement.
Faire de son mieux, ça c'est quelque chose, faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est pas rien faire. Faire de son mieux.
Ouais.
C'est mettre toutes les forces que l'on peut avoir, toutes les capacités que l'on peut avoir, dans ce que l'on est en train de faire, donc le faire au mieux, laisser ouvertes toutes les portes, et voir ce qui se présente, mais aussi accepter que ça ne marche pas comme on voudrait. Voilà, et pouvoir justement suivre d'autres chemins, laisser ouvert.
La perfection n'est pas de ce monde.
Certainement pas.
Et puis qu'est-ce que c'est la perfection ?
Et puis heureusement, parce que c'est ça qui nous permet justement de nous enrichir tous les jours.
Faire de son mieux, c'est un des 4 accords Toltec.
Exactement.
Alors, puisque vous avez dit que la souffrance faisait grandir, j'ai quand même envie de vous poser une question. Ne peut-on pas atteindre le but, c'est-à-dire d'avoir une jolie vie ? Enfin, on verra d'ailleurs tout à l'heure quel est le but de notre vie. Mais ne peut-on pas évoluer, grandir, se perfectionner sans souffrir ? On peut pas faire l'économie de la souffrance ?
Je ne crois pas.
Ah, ça, c'est pas mauvaise nouvelle.
Non, je crois pas. Et je ne crois pas qu'on puisse faire l'économie de la souffrance parce que, ne serait-ce que pour vous prenez un enfant qui est à l'école, il a une mauvaise note, bah, c'est ça qui va l'obliger finalement à, peut-être à retravailler, à comprendre, ou à se dire, bah, finalement, tiens, ça me va pas, c'est pas ce que j'aime faire, je préfère l'histoire aux maths, je préfère. Ouais. Et c'est ça qui va lui permettre de s'orienter petit à petit. Vous avez un chagrin amoureux, bah oui, c'est ça qui va vous permettre de comprendre peut-être que, bah, c'est pas cet amour-là qu'il vous fallait, que, il faut autre chose, que c'est pas ce que vous cherchez, que voilà, c'est forcément aussi dans l'épreuve qu'on se transforme. Forcément.
Si l'épreuve ne nous tue pas, tout ce qui tue pas renforce, mais il faut être sûr que ça tue pas.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, je pense que cette phrase, elle a été aussi beaucoup utilisée parfois à mauvais escient.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, l'épreuve, elle ne tue pas à partir du moment où on y met du sens aussi, d'où l'importance du sens.
Notre pauvre Werther. Il se suicide. Enfin, bon, voilà, je pense qu'on peut raconter la fin de Werther parce que c'est vraiment un classique et que beaucoup la connaissent déjà. Ça se termine mal. Enfin, pour lui.
Oui.
C'est le Werther
oui.
de Goethe, hein, je
voilà.
précise.
Oui. On est dans une époque extrêmement romantique qui répond à ce genre de fin tragique, si vous voulez. Aujourd'hui, dans notre époque, nous, on est plus sur de l'optimisme, essayer d'améliorer nos vies, ce bien-être à tout prix.
C'est vrai, Sabrina Philippe, c'est que à l'époque de Goethe, la souffrance était valorisée, les souffrances oui. du jeune Werther. Maintenant, jamais on fera un livre qui s'appelle Les souffrances d'eux. L'éditeur dirait, mais vous êtes complètement dingue, on va pas en vendre deux.
Oui. Oui. Et pourtant, justement, c'est bien un problème, si vous voulez. C'est qu'on nous vend aussi un espèce de bien-être qui n'existe pas. Les magazines, les émissions vendent un bien-être qui n'existe pour personne. Et bien heureusement, sinon on serait tous un peu dans un monde stérilisé, sans larmes.
Moi, voilà. Je suis moitié d'accord avec vous. Moi, je prends le bien-être. Le mais, bien-être de magazine.
Oui, mais le bien-être de magazine, c'est un bien-être sur papier glacé. Et ouais. celui-là, c'est pas celui qu'on vit dans nos cœurs parce qu'on fait des vagues, vous savez. On n'est pas stable, hein, aussi dans l'humeur. Ouais. On a nos joies, nos peines, et bien heureusement, c'est ça qui donne du relief. Hein. Sinon, oh là là, qu'est-ce qu'on s'ennuierait.
Sabrina Philippe, romancière, mais psychologue.
Seule dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages, seule dans ma fête, c'est dommage. C'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seule dans le bateau. je mets les voiles, mais solo je prends l'eau, tes matelots.
La jeune Juliette Armanet qui chantait « L'amour en solitaire ».
Noël Bréham, État d'esprit sur France Inter.
C'est un peu facile, mais tellement tentant. Après l'amour en solitaire, j'ai envie de vous parler de cette phrase, Sabrina Philippe, que vous écrivez dans votre livre « Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part » édité chez Erol. Page 250, la solitude n'existe pas. Alors, vous venez de nous dire que la souffrance était obligatoire et bénéfique, ce que je trouve pas si bonne nouvelle que ça. En revanche, la solitude n'existe pas, c'est une bonne nouvelle.
Oui, oui, c'est vrai. Cette solitude que l'on vit, nous, dans nos êtres, en fait, elle n'existe pas puisque nos âmes sont reliées ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est ma vision.
C'est votre croyance.
C'est ma croyance. Alors, c'est une croyance quand même qui commence à faire l'objet d'études scientifiques. Il y a eu des études qui se font sur la conscience. Et il semblerait que nous ayons une conscience universelle où nous nous retrouvons tous. Donc c'est très intéressant, c'est des chercheurs éminemment reconnus hein, qui font ces
oui,
recherches-là.
On n'est pas dans,
non, on n'est pas dans du folklorique. Et d'ailleurs, franchement, moi-même, hein, je vous parle de l'âme, je vous parle de réincarnation, mais j'ai toujours les deux pieds sur terre. Et c'est pour ça que j'en parle en m'interrogeant et non pas en étant là en disant voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein, donc ce sont des interrogations ouvertes à tous. Mais voilà.
D'ailleurs, vous êtes devant moi, vous êtes psychologue, vous avez un cabinet, vous avez des chroniques, vous enseignez dans une école d'enseignement supérieur à Paris. Enfin,
voilà. Et je crois que c'est très important de garder cette notion.
Vous voyez,
voilà. Le spirituel est très intéressant à partir du moment où on le mêle au réel et non pas qu'on s'embarque tout là-haut dans quelque chose qui serait folklorique. Il faut faire très attention à ça. Et je le disais, donc il y a des chercheurs très réputés qui commencent à faire des études sur la conscience universelle. Ça voudrait dire qu'on est tous reliés dans la conscience et séparés dans nos corps. C'est intéressant comme concept.
Parfois, il y a deux corps qui protègent deux âmes qui se retrouvent. C'est le thème de votre dernier roman, tu verras. Les âmes se retrouvent toujours quelque part. Mais je reviens à cette histoire de solitude, parce que c'est quand même un fléau, j'allais dire, de ce siècle. Les corps et les âmes en ce moment se retrouvent très seuls. Je ne sais pas si ça s'appelle un vide existentiel, je ne sais pas quel mot mettre dessus. Mais on sent bien que les gens sont seuls. C'est pour ça qu'ils sont connectés peut-être en permanence. Il y a un manque, il y a un vide, il y a un creux.
Oui, il y a une vraie solitude dans notre société. Et je pense encore une fois que c'est l'apport de d'une certaine spiritualité qui pourra l'enlever. C'est-à-dire d'opposer finalement à cette solitude quelque chose qui est de plus, on en parlait tout à l'heure, de l'ordre de la magie un peu, vous voyez, de pouvoir se dire, de serrer une main, de se dire tiens, cette personne-là, ces yeux-là, c'est important de les voir, c'est important de serrer cette main. Et puis de partir de rencontre en rencontre pour briser nos solitudes terrestres. Mais il n'en reste pas moins que même si on est seul sur cette terre, on n'est jamais vraiment seul. Parce qu'il y a, d'autres... On est connectés déjà entre nous par nos énergies. Et ça, on finira bientôt, à mon avis, dans pas si longtemps que ça, par le prouver, hein, que nos énergies sont très, très reliées. En réalité, comme des boomerangs, vous voyez, ça passe par nous. Hein. Oui. Et voilà, et du coup, on n'est pas seul du tout. En réalité.
L'histoire des énergies, je crois que ceux qui sont un petit peu attentifs à leurs sensations corporelles le sentent. Il y a des gens avec lesquels on se sent bien, on se sent apaisé. C'est pas forcément de la sympathie, on est bien. Et d'autres avec lesquels on ne sait pas pourquoi, on se sent agité, contrarié, enfin pas bien quoi. Pourquoi franchement, j'en sais rien. Il y a des gens qui vous donnent de l'énergie, il y a des gens au contraire qui vous en prennent. Oui. Ça, les énergies, on
commence quand même à l'appréhender.
On commence. Donc les énergies entre nous humains, plus une autre énergie, alors qui serait une espèce de comme les éclairs dans le ciel, une espèce d'énergie au-dessus de nous qui
une conscience même. Une conscience générale dans laquelle on se retrouverait tous. Bon, c'est intéressant comme concept.
C'est une hypothèse.
C'est une hypothèse
qui mérite.
Qu'on s'y penche, et d'ailleurs, je disais, des scientifiques s'y penchent.
Et enfin, puisque nous parlons de notre passage sur cette Terre, pourquoi sommes-nous là ? Qu'est-ce que nous sommes-nous venus faire, les humains, sur cette Terre, pendant la petite centaine d'années, pendant laquelle nous allons vivre, à peu près ?
Alors là encore, c'est une vision personnelle qui m'est chère, c'est qu'on vient accomplir une mission sur cette Terre. Bon, on vient déjà, finalement, apprendre pour notre âme, en fait, enrichir notre âme par toutes les épreuves qu'on va avoir, mais aussi de jolies choses qui vont nous transformer. On vient apprendre, peut-être qu'on vient apprendre majoritairement à aimer. Vous savez, je crois qu'en fait, on est toujours dans cet apprentissage d'aimer. Chacun de nous, on n'est jamais au bout de cet apprentissage d'aimer. Aimer un enfant, aimer un conjoint, aimer un élève, aimer
une lumière, aimer un chat.
Voilà. C'est ça. Donc, cet apprentissage que l'on fait en venant ici, et surtout aussi, on ne fait pas que apprendre, on transmet. C'est pour ça que j'ai écrit dans ce livre « Ce qui passe par moi n'est pas moi », et c'est ma vision aussi de ce livre, c'est-à-dire que ce livre est passé par moi, mais il est au-delà de moi. Moi, je ne suis qu'un petit maillon par lequel il passe. Ce qui est important pour moi, c'est de transmettre. C'est toujours ce que j'ai fait, que ce soit par le biais d'émissions, finalement, de cours, de consultations et de romans ou de livres. C'est transmettre. Ben, ça passe par moi. C'est une énergie créatrice qui passe par moi, mais qui n'est pas moi. On s'en moque que ce soit moi qui l'ai écrit. Ce qui est important, c'est qu'ils vivent. Ben, on fait tout ça, finalement. Ça passe par nous. Et puis, ça va à d'autres, comme les mots qu'on est en train de prononcer ce soir.
C'est ce que disait Picasso, d'ailleurs. Ce que disent parfois les artistes. Sabrina Philippe, psychologue, professeure, chroniqueuse et romancière, avec ce « Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part ». Ce livre est édité chez Erol. C'est une histoire. On peut le lire comme ça, comme une histoire, parce qu'il y a un suspense. Et ça dit aussi des choses auxquelles on peut adhérer ou pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de les lire et de les connaître et de les découvrir.
Merci.
Merci Sabrina Philippe d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci.
Bonne soirée. La semaine prochaine, nous recevrons Patrice Von Hersel pour La vie intérieure. Vous pouvez d'ici là télécharger cette émission et la réécouter quand bon vous semble ou venir faire un tour sur notre site. Merci à Henri Bérec, à Simone Depoux, à Emmanuel Fournier, à Muriel Pérez. Après les informations, Brigitte Patient pour Regardez voir recevra Jean-Christophe Bécher pour son exposition à la maison Robert Doisneau dans le cadre du mois de la photo du Grand Paris.